S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à les chercher si éperdument tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres, dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stéphanie Ling, je suis entrepreneur et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découverte, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Dans chaque épisode, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Pour recevoir les bonus gratuits, allez sur le site web www.stephanielingme.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Gendron, fondateur et directeur général de Transpot, une entreprise innovante en système de transport. Il a plus de 13 ans d'expérience internationale dans des entreprises prestigieuses comme Bombardier, Safran et Airbus.
Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir, bonjour.
En faisant un petit peu de recherche sur l'Internet, j'ai trouvé un message qui est toujours associé avec votre nom, Toronto Royal en 30 minutes. Alors, pourquoi en 30 minutes seulement? Qu'est-ce que votre entreprise fait exactement?
En fait, on développe un nouveau mode de transport qui est plus connu aujourd'hui sous le nom d'Hyperloop et qui consiste en fait à se déplacer à la même vitesse, voire plus vite que l'avion au sol. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est transport par tube. Donc, c'est un concept qui n'est pas récent, mais qui a été remis au goût du jour par Elon Musk en 2013, et qui consiste en fait à recréer un environnement à faible pression, en fait, pour pouvoir s'affranchir des frottements aérodynamiques dans le tube et permettre en fait aux différents véhicules qui se déplacent à l'intérieur d'atteindre des vitesses proches de 1000-1200 km/h grâce à des moteurs et des moteurs magnétiques ainsi qu'une lévitation magnétique. Voilà. Donc, en quelques mots, c'est le concept sur lequel on travaille. Et du coup, quand on regarde la distance, pour répondre à ta question, donc Montréal-Toronto, maintenant, on est plutôt autour de 45 minutes, là, quand on fait les calculs et puis quand on considère les phases d'accélération et de décélération, on sera plutôt autour de 45 minutes. Mais voilà, ça change beaucoup la donne par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Tu as mentionné en fait l'Hyperloop. Ça, c'est parce que je pense qu'en fait l'Hyperloop pourrait remplacer les vols domestiques et réduire grandement les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu en fait ces technologies?
Oui. En fait, quand on s'est lancé dans l'aventure, on s'est dit s'il faut développer un nouveau mode de transport, il faut certes que s'il est plus rapide, c'est quand même plus intéressant. Il faut qu'il soit respectueux de l'environnement, donc on est sur quelque chose qui est 100% électrique. Il faut que ce soit plus facile d'utilisation, dans le sens où il faut que ce soit l'objectif, c'est de fournir en fait la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion, donc vraiment quelque chose de plus facile que le train ou l'avion aujourd'hui. Et le quatrième aspect, c'est que ce soit moins cher que ce qui existe aujourd'hui. Si on n'a pas ces quatre éléments, autant réutiliser ou la voiture, ou l'avion, ou le bateau, ou le train. Mm-hmm. Quatre autres modes de transport plutôt que celui-ci. Et ensuite, quand on se projette un petit peu et qu'on regarde, par exemple, les conséquences des constructions des trains à grande vitesse en France, que ce soit les lignes entre Paris et Bruxelles ou même la dernière entre Paris et Strasbourg. À chaque fois qu'une ligne ferroviaire de ce type a été construite, la proportion de vols a diminué, mais de façon drastique. C'est-à-dire que quand on regarde entre Paris et Marseille, par exemple, il n'y a plus que 70% des passagers prennent le train pour 30% l'avion. Et sur Paris-Strasbourg, c'est encore plus, c'est 80% ou 90%. Paris-Bruxelles, c'est presque 100%. Et donc, ça a un effet immédiat, ça a une conséquence immédiate sur la réduction des vols domestiques. Et donc, en ayant un système qui demain peut aller à la même vitesse qu'un avion, on va ni plus ni moins amplifier en fait ce phénomène-là d'avoir une capacité à l'échelle d'un continent de réduire à plus de 50% l'ensemble des vols domestiques. Mmh. Mmh.
Et pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui?
Alors, pour plein de raisons, pas uniquement l'aspect technique. Bon, déjà, le projet est quand même super intéressant et ambitieux. On peut vraiment faire une différence avec la mise en place de ce système-là, je veux dire, de nos jours. Quoi. On a vraiment des besoins. On a conscience que les infrastructures et les systèmes de transport tels qu'on les connaît aujourd'hui sont arrivés à saturation. Je prends souvent l'exemple, moi, qui m'avait vraiment marqué. C'était l'année dernière, j'avais un voyage d'affaires à New York et je devais rentrer le lendemain très tôt. Et on prend le taxi à 5h du matin et le taxi me dit « Excusez-moi, on va mettre un petit peu plus de temps parce que il y a des embouteillages pour aller à l'aéroport. » Et je dis à 5h du matin, je dis « Mais c'est juste insupportable. » Et en fait, on se rend compte que ce soit à Paris, à Toronto, à Montréal… j'imagine à Singapour, il y a une politique assez drastique, je crois, sur le déplacement en ville, hein, mais voilà, c'est devenu juste insupportable. Et donc, il faut réinventer la mobilité de demain. Et en ayant travaillé en fait d'abord chez Airbus, Bombardier, c'est des entreprises qui malheureusement améliorent, n'innovent pas beaucoup. Et à un moment, il y avait un ras-le-bol, enfin personnel, en disant attendez, vous êtes pas sérieux. Vous avez vu la taille de ces entreprises, à mon sens, elles ont une responsabilité civique et citoyenne et ne jouent pas forcément ce rôle-là ou en tout cas font semblant. Donc, on s'est dit, plutôt que de critiquer un système, autant essayer de se lancer et de le construire nous-mêmes. Ça ne va pas être facile, mais au moins, on peut essayer et puis on n'a rien à perdre à essayer. Voilà, donc c'était toute cette dynamique. Et puis en même temps, ça, c'est pour la partie technique. Et puis pour la partie sociale, il y a une volonté, enfin en tout cas avec Ryan qui est mon associé, on a une volonté d'essayer de construire un modèle d'entreprise qui soit différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, plus transparent, plus éthique, avec une responsabilité sociale. Je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas on se donne les moyens pour faire en sorte que. Voilà.
Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut dire en fait que vous suivez votre passion, tout simplement?
Ah oui. Ouais, vaut mieux être passionné. Ouais, on est des passionnés. On est un peu taré dans un sens, mais je pense que c'est un des éléments clés. Si j'avais une recommandation à faire, vaut mieux être passionné par ce qu'on fait parce que des fois ça manque. Si on est uniquement guidé ou par du rationnel, c'est irrationnel ce qu'on fait.
Ouais. Ouais. Et puis en fait aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de passion versus atout, c'est-à-dire sous faiblesse. Vous voyez, parce que passion, en fait, si on suit simplement, en fait, notre passion, parce que des fois, les gens, ben, c'est pas leur force, en fait. Ils ont pas vraiment les avantages ou encore les atouts pour maîtriser ce métier. Faut faire ce genre de travail. Donc, vous voyez, en fait, passion, probablement, ça, c'est la chose la plus importante, mais ensuite, c'est aussi, en fait, avoir certaines expériences, en fait, avoir certains avantages dans ce domaine pour pouvoir, en fait, faire ce genre de métier, en fait, de travail pour créer quelque chose comme vous faites, en fait, en ce moment. Je voyais qu'en fait, vous avez travaillé dans plusieurs grandes entreprises avant. Mmh. Là, en fait, vous avez travaillé en France et ensuite, vous avez déménagé au Canada.
C'est ça.
Mais pourquoi, en fait, à l'international? Parce que ça, c'est quand même France, Canada, ça fait un grand changement.
Oui, après, en fait, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de dire. Alors, faut être passionné. Il y avait aussi, pour ajouter sur ce qu'on avait dit, ce qu'on a dit précédemment, et je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser, c'est OK, on travaille pendant 40 ans de notre vie, voire beaucoup plus maintenant. Si tous les matins, c'est pour se lever et de se dire merde, ou d'arriver le lundi matin au travail et de se dire vivement le vendredi, vivement le week-end, je pense qu'il y a un gros problème. Donc, il faut vraiment, avant d'être passionné, de se poser la question, okay, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel est le sens que je veux y donner, dans quoi j'ai envie de travailler. Et je me dis, faut faire ce que vous avez envie de faire. Dire, si c'est de la photo, si c'est ouvrir un magasin de fleurs, si ça va être poissonnier, boulanger, faire des travaux, jouer aux cartes, n'importe quoi, il faut essayer de trouver en fait comment joindre ce que je dis souvent l'utile à l'agréable, c'est-à-dire on n'est jamais bon, on est très bon dans ce qu'on aime faire, voilà, je pense, ou en tout cas on apprend à être bon dans ce qu'on aime faire et on acquiert des compétences, en tout cas c'est plus facile d'avancer dans ce sens-là plutôt que d'aller toujours à l'encontre de ce qu'on n'a pas envie, quoi. Donc ça c'est un premier élément. Ensuite, pour par rapport à l'expérience perso, moi, j'ai eu de la chance, en fait, j'avais des parents qui étaient, qui ont beaucoup voyagé, qui étaient expatriés, qui travaillaient dans l'industrie hôtelière. Et donc, on a bougé en Afrique, on a fait 10 ans d'Afrique, on a fait un petit peu de France. Après, on est reparti en Asie du Sud-Est, notamment à Singapour. Mes parents ont continué avec la Malaisie, et puis, on a fait aussi ils ont fait un petit moment en Corée du Sud. Donc après, je suis revenu moi perso en France pour des études et puis j'ai commencé à travailler en France naturellement. Mais j'avais vraiment envie de, j'ai en fait attrapé ce virus là de la bougeotte là, et j'avais envie de repartir un petit peu à l'international. Et je trouvais pas mon compte chez Airbus. Et donc à l'époque, Bombardier émergeait potentiellement en tant que troisième acteur en aéronautique. Je me dis tiens, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire bouger les lignes. Mettre un petit peu de stimulus un peu dans cette compétition qui était un peu un duopole qui malheureusement s'est renforcé maintenant, mais à l'époque, voilà, je pensais que Bombardier avait des chances, et en arrivant, bon, je me suis rendu compte que finalement c'était pas forcément, quand on dit souvent que l'herbe est pas plus verte qu'ailleurs, ça c'est clairement la réalité, c'était ni plus ni moins la même chose que chez Airbus sous différentes éléments, mais quasiment la même chose. Donc voilà, ces expériences internationales, ça faisait un peu partie de mon vécu, et une envie justement d'aller voir un petit peu comment ça peut marcher à l'extérieur, et petit à petit on se construit, quoi, et en tant qu'individu, ouais. C'est ce qui fait qu'on est là où je suis aujourd'hui, quoi. Voilà.
Est-ce que vous connaissez des amis avant votre départ pour Canada?
Non, pas du tout, non. Non, je connaissais personne. C'était ouais, quand on y repense, quand on prend un petit peu de recul, même avec ma femme là, ouais, c'était un peu je vais pas dire risqué, mais enfin non, c'était pas risqué, mais c'était challenging, voilà. Mais bon, s'il fallait refaire, on referait, quoi. On apprend énormément de choses,
voilà. Ouais. Même en fait, je veux dire, votre adaptation, Montréal, c'est quand même francophone, on parle, la plupart des gens parlent français. Et est-ce que vous avez trouvé des différences entre la France et puis Montréal? Est-ce que ça a été facile, en fait, votre intégration, votre adaptation, en fait, à l'environnement au Québec, à Montréal?
Oui et non. Je dirais peut-être même plus que non que oui. C'est quand même deux pays complètement différents. Après, nous, perso, l'idée de partir à l'étranger, c'était justement de rencontrer des cultures différentes. Donc, je tenais à dire qu'à Montréal, il y a beaucoup de Français. Et donc, on avait envie d'aller voir un petit peu. À un moment, on s'est posé la question, on a passé 2 ans à Montréal, on s'est dit, OK, est-ce qu'on rentre en France ou est-ce qu'on continue? On s'est dit, quitte à être au Canada, autant continuer dans une province anglophone, donc l'Ontario et Toronto, de pouvoir s'immerger dans une culture différente. Et après, l'intégration, non, ça prend du temps. Même si on a l'impression que c'est deux pays occidentaux, qu'il y a des valeurs à peu près communes, c'est complètement différent, quoi. Voilà. La gestion, l'interaction avec l'humain, les références culturelles, que ce soit la nourriture, que ce soit au niveau du sport, le climat aussi, voilà.
Ouais, ouais.
En particulier ici, là, tout le monde n'accepte pas forcément ou s'adapte pas forcément très bien au climat. Mais en même temps, voilà, on apprend plein de choses. C'est super riche pour ceux qui font l'effort de rester et de persévérer. On peut baigner dans deux cultures et on devient petit à petit, je pense, un citoyen du monde. Je pense que nos générations qui voyagent un petit peu plus que nos parents le comprennent un petit peu plus. Et je pense que des gens de même âge, grâce notamment à Internet, etc., qu'on soit voilà, chinois, indien, français, canadien, brésilien, on a plus de points communs maintenant que peut-être avec les générations plus âgées de nos parents. On partage plus de choses grâce justement à cet échange de communication via Internet, etc. Donc, non, c'est intéressant ce qui s'en vient. Voilà.
Mmh. Oui, en fait, comme vous avez travaillé en fait dans des entreprises pendant plusieurs années, et là finalement vous avez décidé de devenir entrepreneur. Là, j'ai écouté un de vos entretiens et vous avez dit dans cet entretien que vous n'étiez pas un coach employé. Pensez-vous que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas en fait votre définition en fait de good employee ou bad employee. Et quels sont vos critères au niveau de recrutement? C'est-à-dire, vous en fait en ce moment, comme vous êtes entrepreneur et vous allez en fait recruter vos employés, en fait, j'aimerais savoir quels sont vos critères pour recruter vos employés.
Alors, moi, j'adore la différence. Donc, quand je reçois des CV qui sont trop aseptisés ou trop standards, c'est peut-être pas forcément une bonne, comment dirais-je, un bon départ. Même si je regarde, etc., il peut y avoir des choses intéressantes ou la personne a des compétences clés que l'on recherche. Après, c'est lors de l'entretien et des discussions, on essaie de savoir un petit peu ce que les gens font. J'adore quand les gens ont des activités complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a quelques années maintenant, ouais, on n'a pas pu l'embaucher parce qu'on n'avait pas le budget là, mais quelqu'un qui avait fait un parcours classique de scientifique avec un bachelor, un master, etc. Et cette personne-là avait commencé à donc chercher du travail, parcours très classique français. Mais à la fin, dans les hobbies, dans les activités extrascolaires, la personne avait monté sa société de couture. Cette personne faisait de la couture. Je trouvais ça... Et donc, ça démontre en fait une réflexion et un esprit critique qui est souvent intéressant où quelqu'un peut se positionner en disant « Ben non, moi, j'aime la couture et c'est pas parce que je suis ingénieur en mécanique que j'ai pas le droit de faire de la couture et je l'assume, etc. » Donc, ça montre une certaine maturité que je trouve intéressante. Ensuite, dans l'équipe, on a énormément de musiciens. On l'a pas fait exprès, mais on a voilà des gens qui ont fait je ne sais combien d'années de piano. J'ai Thierry là avec nous qui fait de l'orgue. Ryan compose. On a un batteur. On a là une stagiaire qui vient de nous rejoindre, qui chante. Je trouve ça génial. Et donc voilà, ça montre une certaine maturité de pouvoir faire autre chose que de suivre. Un cursus scolaire parce que papa et maman ont dit qu'il fallait faire ça et que j'utilise pas ma tête pour réfléchir un petit peu de savoir est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas, quoi. Donc ça, je pense que c'est très important d'avoir un esprit critique et de se poser vraiment la question très jeune en se disant pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que c'est bien ou parce qu'on m'a dit de faire ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire ça? Donc ça, c'est un des points clés que je regarde. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, good or bad employee, après, je pense que ça tout dépend de la définition qu'on y met. Moi, je sais que j'ai un gros problème avec l'autorité, surtout quand elle est injustifiée et stupide. Voilà, j'ai du mal à suivre les règles quand elles ont aucun sens et surtout quand elles sont pas expliquées. Et de ce que j'ai vu dans toutes ces grandes entreprises, c'est souvent des règles qui sont ou pas suivies ou stupides ou appliquées. On va dire de façon très autoritaire, on dit il faut faire ça et il faut pas faire autrement. Et j'avais vraiment tendance à poser des questions et dire je suis désolé, mais moi je ne fais pas ça. Ça a aucun sens, à moins que vous puissiez me prouver le contraire et m'expliquer. Mais tant que vous n'êtes pas capable de me dire pourquoi on fait ça, ça va être compliqué pour moi de suivre ce que vous dites, quoi. Et c'est vrai qu'en tant qu'employé, des fois, dans une entreprise, on attend à ce que les gens exécutent sans forcément poser trop de questions. Et c'est clairement pas mon cas.
Mais en fait, quand vous sélectionnez vos employés, quand vous recrutez vos employés, c'est avoir l'ouverture d'esprit. C'est l'esprit critique. Puis aussi, je vais mentionner, en fait, sur les règles, des fois, c'est peut-être pas une bonne chose parce que ce genre d'employés, souvent, ils manquent de créativité. On avait à être créatif, en fait.
Oui.
C'est toujours en fait de suivre les règles. On vous demande de faire telle ou telle chose. Et puis là, en fait, les gens ils suivent les règles et puis ils peuvent tout simplement vivre comme ça en fait, dans une entreprise. Et puis pour les autres, en fait, si on est créatif, on veut réfléchir, on veut régler les problèmes. Et puis aussi, en fait, de penser à est-ce qu'il y a un autre moyen de régler ce genre de problème ou,
Il y a un des points clés, c'est également la prise d'initiative.
Oui.
Souvent, ce qu'on dit, c'est nous, si on vous embauche ou si on décide de vous embaucher, c'est que vous apportez des compétences à l'entreprise que l'on n'a pas. Donc, vous attendez pas à ce qu'on vous dise exactement ce qu'il faut faire. On est là pour que, en fait, vous nous dites ce qu'il faut faire et quelle direction et comment construire ça, etc. Donc, c'est d'apporter à l'entreprise, voilà. Augmenter ou améliorer en fait le niveau de compétence en interne de la société pour traiter tel ou tel problème, sachant qu'on a des problèmes à régler qui n'ont jamais été vus ailleurs. Donc il faut qu'on ait des gens qui soient capables de proposer des solutions. Et ensuite, comme je le dis souvent, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution tant qu'on ne l'a pas essayé.
Ouais.
Et donc le processus d'échec fait aussi partie du processus d'apprentissage. Donc on voit aussi des gens qui ont eu ou qui apprennent de leurs erreurs. Je reprends souvent un proverbe de Nelson Mandela, qui disait qu'il ne perdait jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Dans cette dynamique-là, alors je sais que quand on perd, c'est jamais marrant, mais au moins on apprend de ses erreurs et on s'améliore, etc. Voilà, donc un petit peu toutes ces dynamiques et aussi un minimum d'optimisme aussi. Je préfère les gens qui regardent souvent, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, et ça, on le voit tout de suite, c'est dans la nature des gens. Quelqu'un, quand on lui met un problème devant lui, certaines personnes vont tout de suite être dans une dynamique « ça va jamais marcher », etc. Ce qui est le cas, on va dire, de 80 voire 90% de la population mondiale, ce qui est humain. Hein. Première réaction, c'est de dire « ça va jamais marcher ». Et l'autre question, c'est de dire « ah oui, mais dans ces conditions-là, si on fait comme ci, comme ça, peut-être que ça peut marcher, faut qu'on essaye », etc. Toujours d'être dans une dynamique positive.
Voilà. Oui, tout à fait. Et là, en fait, moi, je suis curieuse, ça va, parce que vous avez parlé beaucoup de choses, en fait, sur le recrutement, en fait, de vos employés. Mais quelles sont les qualités requises ou encore les qualités les plus importantes pour être un entrepreneur?
Moi, je pense qu'il y en a plein. Après, oui, on l'a évoqué au début. Je pense que d'être passionné par son sujet, c'est important. Je pense qu'il faut un certain degré de résilience aussi. C'est parfois épuisant comme démarche, surtout, enfin voilà, de devoir convaincre, on va dire, des individus en permanence que son produit ou son service est plus intéressant ou vaut la peine. En termes d'investissement pour des investisseurs privés. Et je me souviendrai souvent une femme qui m'a dit également, pour revenir sur la passion, hein, donc on est toujours dans un processus de lever des fonds, hein, et qui m'a dit surtout ne perds jamais cette passion, c'est ce qui va te permettre de vendre et de lever de l'argent et de convaincre les gens que ce que vous faites fait vraiment la différence par rapport à la concurrence. Donc c'est vraiment la clé, voilà, faut être convaincu, on l'a pas forcément, et c'est pour ça, pour venir à ce qu'on disait également, on est souvent passionné par ce qu'on aime, et d'être passionné par quelque chose que l'on déteste, ça, généralement ça marche pas bien.
Ouais, vous avez pris la décision de démarrer votre entreprise, c'est avant 30 ans ou après 30 ans?
Après 30 ans, ce qui m'intéressait, c'était de démarrer quelque chose dans les transports et dans l'aéronautique.
Ouais.
Il m'a fallu une dizaine d'années pour mûrir en fait le projet. Après Airbus, je travaillais quoi 6 ans chez Airbus. Je suis arrivé à Montréal. Je fais un constat assez rapide, comme quoi c'était à peu près la même situation. commençait déjà, il y avait des idées qui émergeaient en disant, OK, il faut démarrer quelque chose. Il n'y a pas de société low cost au Canada. On regardait la possibilité de démarrer une petite société, une compagnie aérienne. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être un marché de ce côté-là. Bon, pour diverses raisons, ça s'est pas fait. On a déménagé à Toronto à l'époque. Mais voilà, ça commençait, je commençais à regarder, OK, qu'est-ce qu'il faut que je... Dans quoi je peux me lancer, toujours en rapport avec l'aéronautique et les transports. Si j'ai un conseil, c'est je pense qu'on est bon dans ce qu'on sait faire. Voilà, de mon côté. Et ensuite, il faut s'entourer de gens plus intelligents que soi, notamment sur des domaines que l'on ne connaît pas. De mon côté, voilà, j'avais une bonne connaissance ou compréhension de comment construire un nouveau mode de transport, comment l'industrialiser. La partie financière, quelque chose qui me plaît également. Et ensuite, s'entourer de gens pour compléter, parce que c'est un sujet qui demande plein de compétences. Donc, s'entourer de gens plus intelligents que soi pour développer tout ça. Et donc, en termes de compétences, ouais, je pense qu'il y a aussi faire preuve d'humilité, de simplicité, mais en même temps faire preuve de conviction et de persévérance, surtout. Voilà. Donc, et de courage. Surtout du courage. Je pense qu'il faut, les entrepreneurs font surtout preuve de courage. En tout cas, ceux qui réussissent derrière. Voilà.
Super. Vous avez créé votre entreprise il y a à peu près deux ans et demi.
Trois ans et demi, ouais.
Déjà, voilà. Et quelles étaient en fait vos premières démarches quand vous avez décidé de lancer votre propre business?
Alors là, je pense que c'est un peu différent pour tout le monde. Nous, donc 2013, Elon Musk commence à parler un peu de ce concept d'hyperloop, transport par tube. Et donc, moi, je regardais cette idée déjà depuis 1 ou 2 ans, mais j'étais pas sûr, on sait jamais, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, c'est quand même vraiment différent de ce qu'on connaît, etc. Et quand Musk sort dans la presse que ça vaut la peine de développer ça, je me dis, OK, bon, ben, on a quelqu'un qui a déjà une crédibilité industrielle importante dans les médias. Donc, ça valide un petit peu l'idée. Donc là, je sais que j'ai une fenêtre de tir qui s'ouvre. Dire, si tu veux démarrer ton entreprise, Sébastien, c'est maintenant que ça se passe. Là tu as 2-3 ans et il va falloir vraiment que tu décides. Et le point clé, ça a été en fait quand Musk, pour donner un petit peu de dynamique autour de ce développement de ce système-là, crée, je crois que c'était en 2015, voilà, c'est ça, une compétition. En fait, c'était à l'époque un appel d'offres qui était ouvert aux professionnels et aux privés. Enfin, aux professionnels et puis aux étudiants. Et ça, avec un cahier des charges assez simple, en fait. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, j'ai des objectifs qui sont atteignables. Et à l'époque, en fait, on pensait pouvoir obtenir des fonds à la fois de Elon Musk, de Tesla ou de SpaceX. On dit, si on fait quelque chose de bien, on peut peut-être récupérer du financement. Et donc, du coup, j'ai approché l'Université de Toronto. On s'est mis en relation avec un professeur qui nous a donné quelques étudiants qui étaient en fin de master et donc qui devaient travailler sur un projet. Nous ont donc on a formé une petite équipe et on a commencé à répondre au cahier des charges de cet appel d'offres. Il se trouve que Elon Musk a changé les règles. On devait présenter les résultats au mois de janvier 2016 et au mois de décembre il change les règles. Il dit les professionnels dehors, ça deviendra une compétition étudiante. Sauf qu'en fait, moi, ça m'avait donné 3-4 mois pour former une petite équipe et me dire, OK, ben en fait, on peut autant se mettre en mode start-up complet et puis de commencer à aller chercher du financement et de contacter les différents investisseurs. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier. Donc, la société avait été créée déjà au mois d'octobre 2015. Et avec ce petit groupe, on s'est dit, quels sont les prochains objectifs? Là, du coup, comme conseil, on s'est donné un objectif qui n'était pas trop lointain pour que les gens puissent se projeter. Donc, on s'est dit, il faut qu'on présente les premiers concepts au Salon InnoTrans, qui est le Salon international du rail à Berlin tous les 2 ans. Et donc là, c'était en 2016, on dit, on y va. Et j'ai appelé des amis, comme on dit souvent, au début, les startups, ceux qui soutiennent sont souvent la famille et les amis. Donc là, j'ai appelé un ami à Toulouse qui nous a soutenus pour payer notamment les premières factures. Et entre-temps, on a eu un peu de couverture médiatique. On a été mis en relation avec nos investisseurs italiens actuels. Et petit à petit, on est arrivé là où on en est aujourd'hui. On a levé des premiers fonds fin 2016. Et après, on s'est lancé dans une autre levée de fonds. On a ouvert une entité en Italie, etc. Et petit à petit, voilà, on, Voilà, on construit l'équipe et ça va faire maintenant un peu plus de 3 ans et on continue. On espère clôturer la prochaine levée là cet été. On est en bonne voie. Donc,
ouais.
Pour notamment augmenter la taille de l'équipe. Voilà.
Ouais. Et comment vous avez trouvé votre partenaire?
En Transpod, en fait, c'est une série de coïncidences.
Ouais.
C'est juste extraordinaire. En fait, en contactant l'université de Toronto, en fait, ce professeur de mécanique, on s'est retrouvé à Montréal. Ce professeur nous dit, de toute façon, ce domaine-là touche bien plus que la mécanique. Il faut qu'on aille voir un professeur en électricité. Et du coup, on a eu une réunion avec ce professeur-là qui était... C'était vraiment un savant fou, c'était compliqué. Je sentais que le gars était vraiment, vraiment perché. Mais dans la réunion, Ryan était là. On a accroché, on s'est dit mutuellement, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Il m'a écrit son adresse courriel, email sur un bout de papier que j'ai failli perdre. Et en rentrant à la maison, je dis, il faut absolument que je le contacte. Je pense qu'il y a quelque chose. Ryan a l'air brillant. Je pense qu'il est bon. On peut faire un bon duo. Et effectivement, je l'ai recontacté, il m'a dit ouais, ça m'intéresse. Et puis petit à petit, voilà, la relation s'est construite et on se complète très, 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 très bien. On est vraiment deux personnalités différentes, mais au fond, on souhaite développer Transpod de la même façon, que ce soit sur les valeurs de l'entreprise ou en tout cas techniquement, comment on veut construire ça. Donc ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est une coïncidence. L'autre coïncidence, c'était sur. Il y en a une aussi que je trouve super, c'est sur la partie médiatique. Juste après, justement, que Elon Musk change les règles du jeu, on a été contacté par un stagiaire d'un journal qui s'appelle le Toronto Star, ici. Et le mec, il nous appelle, il nous dit, oui, j'aimerais faire un article sur l'équipe étudiante de l'Université de Toronto. Et là, je lui dis, bah, en fait, non, il n'y a pas vraiment d'équipe étudiante. On a créé une entreprise qui s'appelle Transpod. Et je lui raconte un petit peu l'histoire, etc. Mais bon, mec stagiaire, je dis bon, voilà, c'était, je m'attendais pas à grand chose. Et 3 semaines plus tard, en fait, on est en première page de la section business du Toronto Star et Toronto-Montréal en 30 minutes. Et là, c'était juste n'importe quoi. J'ai fait une semaine de médias, Bloomberg, CNN, machin. Enfin bref, c'était juste bien. Et ça a été suffisant, en fait, pour que nos investisseurs italiens apprennent qu'on existe. Et nous contactent pour venir. Voilà, donc c'est juste une succession d'événements qui sont assez improbables au début et très intéressants.
Ouais. En fait, il faut saisir toutes les opportunités. On ne sait jamais. Ça peut...
Exactement. Il faut être dans une dynamique. Vous n'avez rien à perdre. Donc,
ouais.
Allez-y.
Ouais, exactement. Alors, quel a été le plus grand défi quand vous avez commencé?
Le plus grand défi, en fait, c'est de, surtout quand on développe des choses qui sont très innovantes, c'est de trouver à la fois des politiciens et des investisseurs suffisamment courageux pour supporter ces projets-là. Parce que même si tout le monde est d'accord dans le sens où ça adresse des problématiques environnementales, dans le sens où ça peut vraiment drastiquement réduire les vols domestiques, ça peut remplacer un certain nombre de camions des routes, donc améliorer la sécurité des routes. Ça peut contribuer à la réduction du trafic routier. Donc, tous ces éléments, généralement, tout le monde est d'accord. On a fait un travail l'équipe a fait un travail extraordinaire à démontrer avec des rapports d'investissement. Même la dernière étude de faisabilité en Thaïlande là, est pas mal. Et donc, quand les investisseurs on va dire politiciens regardent nos travaux, ils sont souvent, enfin, on a des très bons commentaires, des compliments sur les travaux qui ont été faits. À la seule différence que quand après il s'agit de signer, de dire ok, je supporte et je m'engage personnellement, il y a très peu de personnes, très 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 peu de personnes.
Le défi quand on parle en fait après 3 ans, est-ce que c'est encore le même défi?
Oui. Il y a des remarques qui sont assez symptomatiques quand on dit pour tout entrepreneur qui démarre, on dit souvent que il faut qu'on passe la vallée de la mort de l'innovation. Et au début, je comprenais pas trop ce que c'était. C'est quoi cette vallée de la mort? Ben en fait, c'est faut se débrouiller d'une façon ou d'une autre jusqu'à obtenir en fait un financement suffisant pour passer la vague et passer à l'étape d'après où on. Alors ensuite, après, c'est de l'exécution propre. Mais avant, en fait, il y a tout un travail de conviction, de lobbying, de recherche de financement qui est très, très difficile et qui, voilà, et qui n'est pas, je veux dire, énormément, même des énormément d'investisseurs, les remarques que l'on a, j'en ai encore une aujourd'hui, c'est nous, on supporte l'innovation, mais quand vous êtes proche de la commercialisation, si vous voulez vraiment innover, il faut prendre un niveau de risque important dès le début et être conscient que dans 100 investissements que vous allez faire, 80 vont échouer. Oui. Vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous n'êtes pas dans cette dynamique innovante. Et aujourd'hui, on est dans une société, une structure qui a du mal avec ça, en fait. C'est contre-intuitif, en fait, de se dire, faut que j'investisse et faut que je sois conscient que dans 80% des cas, je vais perdre. Voilà. Et en fait, tous les investisseurs que l'on a contactés, voilà, on est vraiment sur ce ratio-là et je pense qu'on est à plus de 80%. Je pense qu'on est plutôt à 98% des réponses qui sont négatives, indépendamment des soutiens politiques, etc. Donc, c'est là où la persévérance est importante. Il faut continuer jusqu'à trouver le ou les individus qui croient au projet d'un point de vue politique ou financier pour supporter ça. Donc, c'est encore ça et je pense que ça va être encore le cas les 2-3 prochaines années.
Ouais. Oui, beaucoup de travail à faire. Après, donc moi, je voudrais vous poser cette question. Comme vous êtes entrepreneur maintenant, donc j'imagine que vous êtes vraiment occupé, voyagez beaucoup. Quand on parle beaucoup, en fait, d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, croyez-vous qu'en fait, vous êtes capable d'atteindre en fait, cet équilibre?
Le problème de la personne passionnée et entrepreneur, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. Donc, il travaille tout le temps. Enfin, il travaille pas. En fait, c'est pas comme du travail. C'est souvent les débats que j'ai en famille. Ouais. C'est comme famille. On faisait quelque chose qu'on aime tout le temps. Et donc, il faut être capable à un moment de dire, OK, stop, il faut que je passe un petit peu de temps avec ma femme, mes enfants, etc. Enfin, ma fille. Et l'équilibre... Oui. Heureusement que je suis bien accompagné à date et plutôt un équilibre avec la vie familiale et être bien entouré. Je pense que c'est la clé, sinon on pète un câble rapidement. Là, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent en dépression ou voilà, qui sont fatigués, etc. et qui n'arrivent pas, même endettés au bout d'un moment. Et ça peut vraiment être problématique. C'est là où être bien entouré aide. Voilà, vraiment aide. Et pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants et qui sont prêts à vous aider. Et il ne faut pas hésiter à appeler, même si ça nous dérange, etc. Il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide. Ça fait preuve, je pense, aussi d'humilité et de, comment dirais-je, d'intelligence. Je pense d'être capable de dire, OK, je ne suis pas Superman. J'ai besoin d'aide à droite, à gauche. Et c'est comme ça que ça va marcher. Sinon, on se crame tout seul.
Ouais. Et quelle est la première chose que vous faites en vous réveillant?
Souvent, je regarde parce que j'attends des messages, souvent à droite, à gauche, mais c'est vraiment pas un conseil. Et d'ailleurs, ça devient insupportable, ces téléphones portables. Hein. À se réveiller, un truc qui est pas mal, moi, j'écoute de la musique énormément.
Quel type de musique?
Il y a la chanson française, j'aime bien. Après, un peu de jazz aussi, assez soft. Voilà, donc je suis... Mais en même temps, quelque chose, il y a quelques, voilà, des fois un petit quelque chose d'énergétique aussi le matin, ça peut être pas mal. Et après un bon café. Voilà. Et sinon, passer quelques coups de fil déjà. Mais c'est pas, je suis pas sûr que ce soit des bons conseils. je pense qu'il faut suivre son feeling aussi. Il y a des moments perso, moi j'arrive à saturation et tu vois, OK, on arrête là, j'en peux plus là, ça m'énerve là. Et de faire une pause. Ouais, faut être capable, je pense, à un moment de faire des pauses. Voilà. Et surtout, il faut dormir. Il faut vraiment dormir. Parce que si on dort pas assez, ensuite on devient agressif et ça pénalise l'entreprise, ça nous pénalise soi, etc. Et ça peut faire des dégâts. Quoi. Donc il faut avoir la tête reposée.
Ouais, mais combien d'heures vous dormez par jour, en moyenne?
Alors moi, je suis un gros dormeur. idéalement, je dirais 8 pour moi. Là.
Ouais.
Le souci quand on devient entrepreneur, en tout cas, c'est qu'on a, on a souvent des soucis là, et le sommeil n'est pas forcément aussi lourd qu'avant. Là. Quand je dors 6 heures, je suis content là, d'un seul coup. Là. Ce qui est super pénible, c'est de devoir se réveiller la nuit où on n'arrive plus à dormir, on commence à réfléchir, etc. Et là, pendant une heure ou deux, c'est juste, je ne vais pas dire l'horreur, mais c'est pénible, quoi, parce qu'on aimerait redormir. Puis on pense toujours à un truc, etc. Donc, c'est les côtés un peu désagréables du job, là, où il y a quand même des sources de stress et d'inquiétude en se disant « merde, j'ai oublié ça » ou « mince, le fournisseur n'a pas payé ». Parce que du coup, le cash devient un peu le nerf de la guerre, là.
Oui.
Et, après, on n'a plus de patron, mais on a des investisseurs qui ne sont pas toujours forcément très coopératifs. Donc bon, voilà. Il y a d'autres soucis, mais on rencontre des gens passionnants, des gens super intéressants, et pour rien au monde, je retournerai salarié.
Ouais. Ouais. Mais en fait, comment vous gérez, je voulais dire, en fait, gérer votre énergie durant la journée? Parce que vous avez mentionné prendre une pause. Voilà. Et puis aussi, est-ce que vous faites des exercices, faire du sport de temps en temps?
Ouais, faire du sport. Ouais, moi, perso, je joue au tennis. Et je pense que le sport est très, très important. Ouais. Ça permet un peu d'évacuer. Et ensuite, même pour l'entreprise, on a des projets sportifs à lancer, ne serait-ce que d'un point de vue communication, mais également personnel pour évacuer et puis pour rejoindre toujours l'utile à l'agréable. Ouais, je pense le sport. Après, je veux dire, c'est pas la seule réponse. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent ou pour se détendre, ont d'autres moyens, que ce soit faire de la méditation. Je discutais avec un autre entrepreneur. Lui, le matin, il médite. Il arrive, il ne regarde pas son téléphone. Il s'est donné une règle. Je regarde pas. Et il fait une demi-heure de méditation. Je crois qu'il a trouvé des cours en ligne, etc. Ensuite, il écoute de la musique, il prend un café et il commence à regarder ses mails une fois qu'il est au bureau. Voilà, donc c'est une méthode. J'ai un autre collègue lui, c'est le week-end. Il est injoignable le week-end, même pour des amis, etc. Le téléphone est mis sur le côté, etc. Donc, il n'y touche pas. Voilà, donc il y a différentes approches. Après, ça peut être des activités aussi avec des enfants, organiser des choses. Là, j'ai un collègue au boulot, lui, il fait des chorales. Donc, ça peut vraiment en fonction des aspirations des uns et des autres.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Voilà.
Ouais, tout à fait. Et je voudrais savoir, en fait, est-ce que vous avez utilisé des outils ou encore des applications pour améliorer votre productivité?
Je pense que je vais être assez, c'est assez standard. Quelque chose qui est, en fait, malin. La téléphonie, juste un exemple, quoi. La téléphonie au Canada coûte extrêmement cher. Et tous les derniers, je pense qu'il y a quand même commence à y avoir pas mal de gens qui font ça. En tout cas, Apple fait pas, mais Samsung, les téléphones Samsung permettent d'avoir deux cartes SIM. Et donc, moi, j'ai une carte SIM avec un numéro de téléphone français et une autre avec un numéro de téléphone canadien.
Oui.
Et, avec le téléphone français, je peux appeler la France gratuitement, par exemple. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui voyagent de regarder, de prendre des contrats téléphoniques intéressants dans les pays où les gens sont. Après, non, on utilise Zoom. Enfin, vous utilisez Zoom, mais on l'utilise aussi en interne pour les vidéoconférences. C'est pas mal. On avait regardé pas mal au début la suite Google. Eh bien notamment ça permet d'avoir il y a un stockage illimité pour les documents, ce qui est vraiment pas mal. Je crois que ça coûte $10 par utilisateur par mois, donc ça reste raisonnable. Il y a toute la gestion de la messagerie, c'est plutôt pratique pour nous. Et ensuite, sur les outils, on utilise une application qui est pas mal. Alors c'est mieux, je sais pas, vous utilisez peut-être Slack, qui est une plateforme d'échange. Nous, on ne l'utilise pas, on utilise une petite qui est cryptée, en fait, notamment, et qui s'appelle iSide,
okay.
Qui est bien et qui est comme Slack, mais sauf que c'est mieux protégé. C'est pas mal. Et puis ensuite, les applications standards, que ce soit WhatsApp pour les téléphones, Skype, etc. Donc, c'est pas très original, mais voilà, on a quelques petites astuces aujourd'hui.
Et en français, il y a une expression qui s'appelle joie de vivre. Alors, selon vous, en fait, quelle est la joie de vivre?
Alors, il faut faire absolument ce qu'on a envie de faire. Ça revient sur la partie passionnée. La vie est courte et il faut vraiment pas avoir de regrets, quoi. Donc, si vous avez des choses que vous souhaitez faire, faites-les maintenant. Attendez pas 60 ans, 70 ans, 80 pour vous lancer, quoi. C'est maintenant que ça se décide. Faut le faire intelligemment, faut le construire, mais rien n'est impossible. C'est ce qui permettra, enfin, c'est ce qui, je pense, permet à chacun de s'épanouir et d'y trouver son compte. Voilà. Et même si ça marche pas, au moins on aura essayé et on pourra pas, on n'a pas de regrets par rapport à ça.
En tout cas, merci beaucoup, Sébastien.
Ben, je vous en prie, avec plaisir. Merci pour l'invitation.
Merci. Au revoir.
J'espère que cette émission vous a plu. Et n'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis pour les aider à trouver les passions et le bonheur dans leur vie. Passez une excellente journée.